France Culture. France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Bonjour et bienvenue dans les midis. Il est étrange de penser que la vie a surgi de la mer et que la mer est désormais menacée par l'une des formes de cette vie, écrivait Rachel Carson dans l'introduction à la nouvelle édition de son livre « La mer autour de nous » en 1960. En cet été 2025, le titre de cet ouvrage majeur est repris par la Biennale des Arts de Nice, cette année Biennale des Arts et de l'Océan, en écho au sommet international qui s'est tenu dans la ville au mois de juin. 11 expositions en forme de liens multiples, historiques, contemporains, sensibles à la mer, que nous allons explorer aujourd'hui en compagnie de la co-commissaire générale de la Biennale, Hélène Guenin, et de deux des artistes exposés, Manon Langeouer, puis, après le journal, Hugo Schiavi. Bonjour Hélène Guenin.
Bonjour.
Et bonjour Manon Langeouer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur France Culture. Hélène Guenin, vous dirigez depuis peu la fondation Yves Klein. Vous étiez auparavant directrice du MAMAC, le musée d'art moderne et d'art contemporain à Nice. Et vous êtes donc commissaire avec Jean-Jacques Ayagon de cette Biennale des Arts et de l'Océan qui se poursuit jusqu'au mois d'octobre, même si certaines expositions se termineront un peu plus tôt. Toutes en tout cas sont accessibles cet été. Alors ces expositions habitent la ville et ses musées, l'éventail des propositions est très large. Et la première question est peut-être précisément celle du choix. Comment avez-vous sélectionné, choisi et dans quelle mesure la référence à Rachel Carson et à ce livre « La mer autour de nous » vous a-t-elle guidée ?
Alors peut-être la première chose sur cette biennale, en fait c'est la 6e édition et la volonté initiale de Christian Estrosi et de Jean-Jacques Ayagon qui ont porté ce projet à partir de 2011, c'était de faire surgir d'autres récits sur la ville, une ville qui est baignée quand même de pas mal de stéréotypes et les biennales avaient pour vocation vraiment d'apporter aussi un regard sur l'histoire de la ville, sa culture et sur la création contemporaine de cette ville. Sur cette 6e édition, l'enjeu c'était évidemment de questionner les liens entre art et océan dans ce contexte du sommet que vous avez rappelé. Et comme dans les biennales traditionnelles, l'enjeu a été de créer une synergie avec les différents musées de la ville et d'amener chacun chacune à partir de l'ADN de ses collections de venir poser un regard sur la question, la diversité de ces imaginaires qui ont traversé des générations d'humains depuis 400 000 ans avant notre ère, où on trouve à Terra Amata les premières traces d'implantation et de feux humains au bord de la mer à Nice. Donc ces premiers usages aussi des hommes de la préhistoire face à la mer, jusqu'aux enjeux écologiques contemporains les plus brûlants. Donc on a vraiment essayé d'associer encore une fois en synergie l'ensemble des musées. Donc on va retrouver à la fois des questions de patrimoine subaquatique, au musée archéologique avec les traces des premières expéditions et des premiers échanges marchands. On retrouve les explorations plus contemporaines au musée de la photographie avec Laurent Balesta notamment, qui a sillonné à la fois la Méditerranée et les mers du globe pour ramener des images extraordinaires des fonds sous-marins. Et puis, il y a aussi évidemment la question de la mer comme objet de contemplation. On retrouve notamment au musée Matisse, avec un des plus grands maîtres du XXe siècle, qui a fait de la Méditerranée pendant plus de 50 ans un laboratoire de sa création et de la réinvention en permanence de sa peinture. Donc c'est vraiment tous ces enjeux que l'on a essayé de rassembler dans un récit un peu épique, dans une odyssée, une traversée du temps, à travers ces expositions. Et tout en prenant soin vraiment d'amener aussi ce regard des artistes contemporains sur ces enjeux. Et un lien aussi entre art et science. Et c'est là peut-être aussi qu'intervient Rachel Carson. Rachel Carson, on en parlait juste avant en aparté avec Manon, c'est vraiment une figure majeure quand on parle des questions écologiques. On la connaît bien en France, à travers Printemps silencieux, qui est le livre qui a fait éclater le scandale du DDT, des pesticides et des enjeux de santé. On sait moins que c'était une grande biologiste marine et que son premier grand ouvrage, La mer autour de nous, était une sorte manifeste sur un état de la connaissance autour des océans, sur leur formation.
Et c'est 1950 pour la première édition, et c'est précisément le moment où en fait l'océanographie va commencer à se développer, et où justement on commence aussi à s'intéresser à ce qui se passe en dessous et à aller au-delà peut-être de ce rapport de contemplation qui était prioritaire jusque-là. Alors on va pas ce midi pouvoir parler de tout ce qui se passe dans cette biennale, hein, mais comme elle est quand même située, vous avez commencé comme ça, il faut peut-être évoquer la Villa Masséna qui propose une exposition intitulée Nice du rivage à la mer, à la fois historique et thématique, et qui explore la relation entre la ville et la Méditerranée, et cette intimité qui, pour reprendre les mots de Jean-Jacques Ayagon, ne s'est imposée que bien lentement, puisque Nice a en fait longtemps regardé davantage du côté des montagnes.
C'est un paradoxe niçois, effectivement, qui m'a frappée lorsque je suis arrivée dans cette ville il y a 9 ans, de découvrir que c'était une ville des collines et des montagnes plus qu'une ville de la mer, contrairement à l'image internationale qu'elle renvoie. Et tout l'enjeu de cette exposition portée par Jean-Jacques Ayagon, c'est d'explorer justement cette lente conquête du rivage, notamment à travers l'invention du tourisme. C'est une ville qui s'est construite sur les collines, qui a longtemps été entourée de ces murailles qui la mettaient à distance de la mer. La mer, ça a toujours été l'espace par lequel sont venues les conquêtes, les dangers, qu'ils soient naturels ou liés aux expéditions et aux tentatives de mettre la main sur Nice, si je puis dire. Et c'est vraiment au XVIIIe siècle, à la fois que les remparts tombent et que la ville commence à devenir un espace de villégiature, d'abord pour une aristocratie, qui vient y chercher la douceur de l'hiver. Et puis, au fil des siècles, les usages évoluent jusqu'aux usages qu'on connaît aujourd'hui, des plages de Nice qui font l'objet de désirs de touristes internationaux.
Oui, voilà, d'abord les hivernants, puis les estivants. Donc la mer, auparavant redoutée pour ses tempêtes et pour ce qu'elle pouvait charrier de désirs de conquête, d'invasion, devient effectivement objet d'émerveillement, de plaisir, jusqu'à la Côte d'Azur, les touristes. Il y a dans l'exposition ces photos de Martine Parr, décors offerts au soleil sur les galets, serviettes collées les unes aux autres. Et puis il y a, et l'exposition se termine ainsi, la menace que constitue la pollution et le dérèglement climatique aujourd'hui.
Complètement, je pense que ce territoire entre mer et montagne est particulièrement sensible aux transformations climatiques. On peut penser à la tempête Alex, hein, qui s'est déroulée il y a quelques années et qui a vu la mer tout à coup chargée de la montagne et des arbres, des sommets, et se recouvrir d'une véritable forêt de troncs d'arbres. C'est aussi un espace aujourd'hui protégé. Nice fait partie du sanctuaire Pélagos, qui porte une attention particulière aux mammifères marins. Et donc l'exposition montre aussi cette prise de conscience de la ville, les défis auxquels elle va faire face dans les années à venir. Et le choix de Jean-Jacques Ayagon était notamment de terminer l'exposition avec 2 figures attachées à Nice. On a un film de Guillaume Néry, mm-hmm, qui s'appelle One Breath Around the World.
Apnéiste.
Apnéiste, un grand champion de freedive, et qui montre cet émerveillement, ce rapport à la mer, aux mammifères marins. Il y a des images de toute beauté qui le montrent en relation avec des baleines. Mais aussi un film de Julie Gauthier, qui a longtemps été sa compagne, qui est aussi apnéiste et danseuse, et qui a réalisé un film qui est une sorte d'allégorie sur les menaces de la pollution marine.
Finalement, l'homme a lui aussi retrouvé le chemin de la mer. Il a dû la contempler, curieux, émerveillé, debout sur son rivage, y retrouvant peut-être confusément le sentiment de son ascendance. Il ne pouvait rentrer physiquement dans l'océan comme l'avaient fait les phoques et les baleines. Mais à travers les siècles, avec l'ingéniosité et la puissance de raisonnement que lui donnait son intelligence, il a cherché à l'explorer jusque dans ses parties les plus secrètes, afin d'y retrouver son chemin, par l'esprit et l'imagination. Il a construit des bateaux pour se lancer à sa surface. Plus tard, il a inventé les moyens de descendre sur ses hauts fonds, emportant l'air dont, mammifère depuis longtemps déshabitué de la vie aquatique, il avait besoin pour respirer. Allant et venant, fasciné devant les profondeurs interdites, il a su les sonder. Il y a plongé des filets pour puiser à la vie qu'elles renferment. Il a inventé des yeux et des oreilles mécaniques qui reconstituent pour ses sens un monde depuis longtemps perdu. Un monde, cependant, que les replis les plus intimes de son subconscient n'avaient jamais oublié tout à fait. Il n'en est pas moins revenu à la mère génitrice, aux conditions qu'elle lui impose. Il ne peut ni dominer, ni modifier les océans comme il a pu réduire et piller les continents, au cours d'une occupation pourtant très brève encore. Dans le monde artificiel des villages et des villes, il oublie souvent la nature réelle de la Terre et la longueur de ses périodes où l'espèce humaine n'existe que depuis un seul instant de l'éternité. Mais ce sentiment lui vient très nettement quand il navigue, voyant jour après jour reculer l'horizon, que cernent et labourent les vagues, comprenant la rotation terrestre quand les astres passent au-dessus de la nuit, éprouvant seul, dans ce monde de ciel et d'eau, l'isolement de notre planète dans l'espace. Alors, ce qui ne lui arrive jamais à Terre, il apprend et comprend que son monde est avant tout un monde d'eau, un globe dominé par son manteau marin, où les continents ne sont que des accidents temporaires à la surface de cette mer qui nous entoure.
Extrait de La mer autour de nous de Rachel Carson, lu par Léa Weiss-Grus, et qui nous conduit à votre travail. Manon Langeouer, vous présentez, vous, dans le cadre de cette Biennale des Arts et de l'Océan, votre projet intitulé « Les particules, le conte humain d'une eau qui meurt ». C'est au Musée de la photographie Charles Nègre, à Nice donc. Avant d'en venir plus directement à cette exposition, et ça n'est pas sans lien, votre rapport à la mer, à l'océan, il est très fort, il est ancien. Vous êtes d'ailleurs retourné vivre en Bretagne pour être justement au contact de la mer.
Oui, bah je suis originaire de là-bas, mais j'ai effectivement grandi à Paris. Et depuis quelques années, comme j'ai décidé de vraiment concentrer mon travail sur des problématiques environnementales liées à l'océan, ça faisait sens pour moi de m'installer au bord de mer. J'ai vraiment un rapport très amoureux à la mer. Quand j'en suis un peu éloignée trop longtemps, je ne me sens pas très bien. Donc effectivement, je suis retournée vivre à Saint-Malo et tout est aligné maintenant, le travail, la vie personnelle, et ça fait un bien fou.
Vous avez donc décidé de consacrer votre travail d'artiste à l'océan avec un déclencheur, je crois, qui a été une expédition en 2021 à bord de la goélette scientifique Tara.
Oui, c'est vraiment... j'ai toujours travaillé sur la relation art et science, et c'est vraiment effectivement sur ce bateau que j'ai pris conscience que je ne voulais plus que travailler sur ces problématiques océaniques, et j'ai enfin compris comment je pouvais combiner justement cet amour infini de l'océan à mon travail. Et c'était vraiment une expérience humaine, artistique et scientifique qui était bouleversante, et qui a déclenché ce travail Les particules, et qui m'a aussi fait prendre conscience que l'art est très politique, et que en fait, il offre des possibles assez incroyables pour sensibiliser le grand public justement à toutes ces questions de pollution, d'extractivisme, pardon. Et que voilà, ça offre un nouveau biais, le biais du sensible, pour parler de ces sujets-là dont on parle depuis très longtemps. Vous l'avez dit avec Rachel Carson, elle en parle déjà dans les années 50, et malheureusement, le discours scientifique est souvent mal entendu. Donc voilà, j'ai confiance en l'art pour peut-être offrir une nouvelle porte d'entrée pour appréhender toutes ces questions.
Alors, cette exposition, ce travail, Les particules, le conte humain d'une eau qui meurt, est tout aussi à la fois poétique et saisissante que son titre. Hein. Dans un premier temps, on voit de petits formats. Vous utilisez la technique du cyanotype et de la peinture fluorescente. On est donc dans des teintes bleutées, rehaussées de fluo. Et on peut penser, dans un premier temps, à des planches représentant des micro-organismes. Il y a d'ailleurs en bas du cadre à chaque fois des noms scientifiques. Tabularia indivisa, Lycmophora flabellata, Coronosphaera mediterranea. Sauf qu'en dessous, on peut aussi lire paille pour boire, agitateur de boisson, bouchon pour flacon de sauce.
Oui, alors effectivement, l'idée de travailler ces petits formats, c'est de de mettre en place quelque chose que j'ai toujours travaillé en photographie et qui est le leurre photographique, voilà. Donc vraiment la supercherie. Je m'inspire toujours de travail photographique ancien. J'ai une formation d'historienne de la photo. Donc là, clairement, mon travail fait référence au travail d'Anna Atkins, qui avait fait ce magnifique herbier qui s'appelle British Algae, et sur lequel elle référençait avec ces mêmes petites étiquettes le nom des algues qui étaient connues à cette époque. Et donc moi, j'ai décidé d'inventer un nouveau système de référencement et de faire découvrir avec ces pièces le monde magique des micro-organismes qui est très peu connu du grand public. Donc le plancton, en fait, grand public dont je fais partie, avant d'embarquer sur la goélette Tara, je pensais que le plancton se résumait grossièrement au krill. Et en fait, ça a été vraiment une découverte très saisissante de savoir qu'il y avait des centaines de milliers d'espèces différentes. Donc l'idée du travail, c'est offrir au grand public une visualisation de toutes ces créatures magiques, mais en même temps de les interpeller sur leur consommation de plastique au quotidien et les questionner sur l'impact que cette consommation peut avoir sur ces organismes, en fait, qu'on ne connaît pas et pour la plupart qu'on ne voit pas non plus. Donc on s'approche au fur et à mesure, on est attiré, entre guillemets, peut-être par la beauté de ces formes géométriques, on s'approche, on lit cette étiquette et là on est saisi et on comprend sur certaines pièces qu'effectivement il ne s'agit pas du tout de la vraie photo microscopique mais bien de matériaux plastiques que je suis venue sculpter, retravailler pour leur donner ces formes de vivant.
Et donc les noms, là, scientifiques que j'ai cités existent véritablement, d'ailleurs dans l'exposition il y a les originaux, si je puis dire, c'est-à-dire les vrais micro-organismes. Effectivement, que l'on découvre et dont on découvre la beauté. Et il y a donc ces imitations que vous faites avec des objets plastiques que vous avez collectés, tout comme vous avez collecté les images de bio-organismes, c'est ça ?
Oui, alors en fait, c'est des collectes simultanées, effectivement. Donc j'ai collecté sur Tara, après à la station biologique de Roscoff en Bretagne, un certain nombre d'images microscopiques de ces organismes, en même temps de collecter des déchets ramassés sur les plages ou en faisant les poubelles ou en collectant auprès de gens de mon entourage qui consommerait encore beaucoup de plastique. Et donc après, j'ai essayé de travailler sur une analogie justement sur quel type de plastique pourrait représenter tel micro-organisme. Et vous avez évoqué effectivement le fait que je montre aussi les vrais micro-organismes dans l'exposition. C'est quelque chose qui est très important pour moi aussi. Puisque je travaille en étroite collaboration avec des scientifiques, en fait, pour mes projets. C'est des gens qui m'offrent énormément de leur temps. Donc, pour moi, c'est très important aussi que tout ce temps qu'ils m'offrent, je puisse le restituer dans l'exposition. Donc, créer d'abord un espace immersif qui, à mon sens, justement, va plus interpeller le spectateur. Et ensuite, créer comme une petite antichambre où je montre les dessous de la création, entre guillemets, et où je donne accès à tout cet index scientifique sans jamais rien forcer, évidemment. Si on a envie de lire, on lit. Si on n'a pas envie d'en savoir plus, on n'en sait pas plus et on aura juste été interpellé par cette petite étiquette. Mais voilà, avoir quand même quelques mots pour expliquer l'importance du plancton quand même dans l'écosystème océanique, quelle importance il a pour nous aussi humains sur Terre. Et puis aussi dire quelques mots sur le plastique, à quelle fréquence en fait on le retrouve dans l'océan et comment il empêche justement ces micro-organismes de faire leur travail correctement. Et leur travail, c'est de faire la photosynthèse et donc d'absorber du dioxyde de carbone et de créer de l'oxygène.
Oui, parce que c'est ça, vous êtes vraiment là dans le micro-organisme et micro-plastique d'ailleurs. Donc au départ, vous faites des sculptures en fait avec ces objets de plastique, puis vous les photographiez. C'est ça.
Exactement, voilà. Oui. Je passe d'abord par la 3D. Donc, la méthodologie est toujours différente parce que l'idée, c'est évidemment pas de continuer de participer à la société de consommation du plastique pour réaliser le projet. Donc, soit j'ai recours à la modélisation 3D, parfois la sculpture, parfois la simple photographie quand l'objet trouvé a déjà la forme du vivant. Je photographie ensuite les réalisations et je viens travailler cette pièce en cyanotype, qui est donc un procédé photographique ancien, monochrome bleu. Donc ça faisait assez sens par rapport au sujet, parce que de manière très évidente, ça évoque l'océan. Mais voilà, ici, moi, j'ai essayé de moderniser un peu cette technique ancienne en la travaillant directement sur du verre, ce qui me permet, au lieu d'avoir une pièce blanche et bleue, d'avoir une pièce transparente et bleue et de venir rehausser ces transparents à la peinture fluorescente et donc de créer cette atmosphère abyssale pour l'exposition.
Alors, ce qui est saisissant, c'est qu'il y a un côté aussi un peu dystopique parce que ce que l'on voit, on peut y voir en tout cas une sorte d'encyclopédie future d'un monde de plastique en fait.
C'est exactement ça, oui. L'idée, c'est vraiment, je travaille beaucoup sur des récits d'anticipation, donc vraiment fictionnels. Et en discutant avec une chercheuse au LEMAR sur justement l'impact de la pollution plastique, il y en a évidemment énormément et des très différents. Il a été évoqué effectivement le transfert de gènes à cause du plastique, donc les pièces, elles peuvent évoquer le fait que en fait ce vivant est transformé et que dans X années, en fait, le plastique aura intégré l'ADN. De n'importe quel organisme marin.
Ouais, parce que ce que vous dites, c'est qu'on a tous en tête ces images de ce qu'on appelle le continent de plastique, mais que en fait la majorité devient du microplastique qui contamine en fait les micro-organismes, d'où l'intérêt de nous faire voir ce micro, parce qu'en fait c'est ça le gros dégât.
Exactement, oui. On parle énormément de ce continent de plastique, ce septième continent. Or, il représente 1% de la pollution plastique globale, donc c'est absolument rien du tout. Et la majeure partie, ça va être ce plastique en question qui va se déliter en particules de plus en plus petites avec l'action du courant, du vent, de la salinité de l'eau, du soleil, etc. Et ces microplastiques, ils sont impossibles à récupérer. Ils sont dans l'océan à tout jamais. Et c'est vrai que c'est pas une pollution plastique dont on va parler beaucoup dans les médias parce qu'il n'y a pas système de visualisation. Parce que microplastique dit
y a pas
invisible, voilà, à l'œil nu, pas d'image. Donc j'ai évidemment pas utilisé des microplastiques pour faire mon projet parce que c'est pas impactant visuellement, ça ne se voit pas. Mais l'idée, c'était de l'évoquer et d'évoquer la grosse partie du problème, et qui est qu'effectivement ces microplastiques réfléchissent la lumière du soleil, qui du coup empêche le phytoplancton, donc le plancton végétal, à faire correctement la photosynthèse, et réduit sa capacité à faire cette photosynthèse de 45%. Ce qui est absolument énorme et complètement dramatique. Donc c'est vrai que moi, en parlant de pollution plastique, j'ai vraiment décidé de me focaliser sur la partie invisibilisée et dont on ne parle effectivement jamais, et inventer, entre guillemets, un système de visualisation à cette problématique qui n'en a pas.
Créer les images manquantes, d'une certaine manière, pour nous interpeller, et en effet, ça nous interpelle. Hélène Guenin, on parlait de la fondation Tara Océan, elle est présente à la Biennale, à travers une exposition qui s'appelle Becoming Ocean, a Social Conversation About the Ocean, présentée dans un autre lieu de la Biennale qui est là, à Villars-Son. Peut-être quelques mots sur cette exposition-là, qui pour le coup est très positionnée aussi sur ces enjeux écologiques.
Complètement, l'exposition était voulue comme une sorte de miroir des grands enjeux débattus dans le cadre du sommet des océans. Donc bien sûr, la pollution microplastique, la question de l'exploration des fonds marins, dont on voit bien aujourd'hui qu'elle reprend, entre guillemets, des forces. La question aussi du transport maritime. Et donc, c'est évoqué à travers deux fondations, Tara Océan et TBA21, qui depuis plus de 20 ans pour l'une, 12 ans pour l'autre, ont respectivement mené un travail de fond sur des rapprochements entre des artistes, des scientifiques, des anthropologues, pour justement donner à voir cet invisible et trouver finalement des formes d'incarnation sur des macro-récits, sur cette complexité en fait des interactions et des interrelations sur le climat, sur l'océan, tous ces impacts évoqués par Manon Langeoire sur les microplastiques, les réverbérations, etc. C'est des systèmes extrêmement complexes. Les scientifiques ont parfois des difficultés à faire passer ces récits. Et le pari de Tara et de TBA, c'était d'inviter des artistes, non pas pour les instrumentaliser, mais pour donner forme, donner vie, tenter d'incarner, tenter de parler à la première personne aussi de cette complexité. Et faire aussi appel à un ressort, je reviens sur Rachel Carson, qui est le ressort du merveilleux. dans ces récits finalement de l'horreur aussi et de ces chimères du futur, il y a une chose à laquelle elle croyait profondément, c'est la nécessité d'un sens de la merveille et d'avoir une expérience personnelle de la nature, de l'environnement pour être capable de le protéger, voire de le réparer. Et donc, dans cette exposition de la Villa Arson, on a une vingtaine d'artistes issus des collections de ces deux fondations qui viennent apporter d'autres regards, d'autres récits, parler aussi depuis le point de vue de la mer et de celles et ceux qui l'habitent, et apporter aussi des récits du sud global, et notamment de l'Océanie et des Caraïbes.
Alors parmi ces plus de 20 artistes internationaux, on retrouve notamment Nicolas Flock, avec son travail sur la couleur de l'eau. Nous en avions parlé avec lui l'été dernier aux Rencontres d'Arles, où il était exposé. Il est aussi présent, Nicolas Flock, dans un parcours urbain, des installations, créations, qui se trouvent donc dans l'espace public à l'occasion de cette biennale, plutôt en front de mer. Il y en a 6. Vous pouvez nous parler de celle de Nicolas Flock, précisément, parce que c'est une commande, je crois.
Complètement, avec une volonté d'adresser ces questions depuis l'espace public, avec à nouveau un ressort poétique. Et Nicolas Flock a proposé sur un site qui est vraiment emblématique de la ville de Nice, qui s'appelle la Tour Bellanda, qui domine toute la promenade des Anglais. Eh bien, il a réalisé un néon qui reprend les gyres et les circonvolutions du Gulf Stream, qui est donc ce courant marin extrêmement important qui circule entre le Golfe du Mexique et l'Atlantique Nord, et qui est un facteur déterminant sur l'équilibre du climat, dans la mer, sur terre, qui a des impacts sur la pêche, sur les écosystèmes locaux. Et on sait aujourd'hui à quel point un dérèglement potentiel du Gulf Stream pourrait avoir des conséquences absolument catastrophiques sur notre climat et notre mode de vie. Donc c'est une façon très poétique, très visuelle de rappeler aussi ces enjeux-là.
On peut citer aussi dans ce parcours l'artiste Laure Prouveau, avec une énorme pieuvre qui n'est pas sur la plage, mais qui semble sortir de terre comme ça sur la pelouse Jacques Médecin. Donc on n'est quand même pas très loin de la mer non plus. Mais...
On n'est pas très loin de la mer, et donc elle vient plonger ses tentacules en fait dans le lit du Paillon, qui est ce cours d'eau qui relie la montagne à la mer. Et le poulpe est depuis des années pour Laure Prouveau une sorte d'alter ego. Elle est fascinée par cet animal marin qui a une intelligence hors du commun. Et ce poulpe qui surgit de ce parc brandit un drapeau. Il demande sa place à la table des Nations Unies en affirmant des Nations Unies, des mondes sous-marins.
Manon Langeouer, vous l'avez dit, vous avez décidé de consacrer votre travail d'artiste à cette question des océans. Vous vous définissez, je crois, désormais comme une artiste militante. Est-ce qu'on peut dire quelques mots d'un projet en cours, à venir, votre prochain travail?
Oui, le prochain travail, il portera du coup sur une toute autre question, qui est la question de l'industrialisation de la pêche. Donc, c'est comme pour la question de la pollution, en fait, dans les grands médias, on va parler de certains points de cette problématique et pas d'autres. Donc, on va parler des problèmes de quotas, de la chute de la biomasse pour certaines espèces. Et on ne parle pas du tout, en fait, de ce qu'on appelle les prises accessoires. Et par exemple, le chalutage de fond est une pratique de pêche industrielle qui va racler tout le fond de l'océan pour pouvoir pêcher un certain nombre de poissons qu'on va consommer. Mais donc, en raclant le fond, va arracher des végétaux, des animaux, donc toutes ces espèces qu'on appelle benthiques, donc qui vivent sur le sol de l'océan, qui ne sont pas consommées par nous, donc qui ne rentrent pas dans les quotas et dont on ne parle jamais. Et ce sont des espèces qui ont pourtant une importance primordiale pour l'écosystème océanique. Donc le prochain projet va vraiment se concentrer sur ces espèces-là.
Et l'enjeu, c'est de les rendre visibles aussi?
Exactement, rendre visible une problématique invisible à l'œil nu, et donc de la même manière de créer un récit d'anticipation où ces espèces-là seraient déjà fossilisées à cause de la sédimentation qui reviendrait se mettre au-dessus après les passages des chaluts.
Donc, en attendant de découvrir ce nouveau projet, votre exposition « Les particules, le conte humain d'une eau qui se meurt », Manon Langeouer, est à voir donc jusqu'au 7 septembre dans la galerie du musée de la photographie Charles Nègre à Nice. C'est aussi, je le précise, un livre qui est publié aux éditions The Eyes Publishing. Merci beaucoup, Manon Langeouer, d'être venue sur France Culture ce midi. Hélène Guenin, vous restez avec nous. Nous continuons à parler de cette Biennale des Arts et de l'Océan après le journal, avec un autre artiste qui expose dans ce cadre, Hugo Schiavi.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
La suite des midis consacrés aujourd'hui à la Biennale des Arts et de l'Océan à Nice qui se poursuit jusqu'à la fin de l'été. Nous sommes toujours avec la co-commissaire générale de cette Biennale, Hélène Guenin. Et après avoir échangé avec Manon Langeouère avant le journal, place à un autre artiste dont le travail est exposé en ce moment à Nice, Hugo Schiavi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct des locaux d'ici Hérault à Montpellier. Vous présentez dans la grande halle du 109, pôle de culture contemporaine à Nice, une installation intitulée « La zone de minuit ». Alors vous avez ces dernières années, Hugo Schiavi, participé au voyage à Nantes, à la Biennale de Lyon, à Manifesta, à Barcelone l'année dernière en 2024. Là, c'est un projet créé pour cette Biennale de Nice et pour ce lieu. Vous avez eu carte blanche. Alors, qu'est-ce que cette zone de minuit ?
Alors, la zone de minuit, c'est un terme qui est donné à cette zone très spécifique de la colonne d'eau, à l'endroit même où les rayons du soleil ne peuvent plus pénétrer. Et c'est un terme tellement poétique que je me le suis approprié pour cette exposition, pour moi créer une installation immersive, vous l'avez dit, in situ, dans les anciens abattoirs de Nice, qu'on appelle le 109. Et ici, j'ai imaginé un monde sous-marin. C'est une plongée verticale que je propose dans un monde où les bouleversements climatiques auraient provoqué l'évolution de nouveaux types de créatures qui sont à la fois high-tech, technologiques, donc avec un éclat un peu de science-fiction comme ça, mais organiques également, qui sont créées. Alors on a du ver soufflé qui s'agglomère avec des matières collectées en bord de mer, du silicone, mais aussi tout un travail vidéo, digital, enfin vidéo en images de synthèse, et aussi tout un travail sonore. Donc on a vraiment pris tout l'ensemble des composantes de cet espace pour en faire encore une fois une œuvre complètement immersive.
Voilà, lorsque nous arrivons dans cette grande halle où est présentée votre installation, Hugo Schiavi, il fait noir. La seule lumière provient de vos œuvres. Nous marchons sur du sable noir. Et il y a donc ce son autour de nous, cette bande-son qui a été réalisée avec le bioacousticien Hervé Glotin. Qu'est-ce qu'on entend là ?
Alors, pour être plus précis, ce son, il a été réalisé avec Anthony Belguise, que j'en profite pour le remercier. Certains sons proviennent effectivement du bioacousticien Hervé Glotin, je le remercie aussi. On entend, et le son a été travaillé un peu de la même manière que le reste des œuvres qui composent cette installation. Là, derrière nous, on entend des cachalots. Des clics de cachalots qui nous ont effectivement été fournis par Hervé Glotin. Le reste du son, et c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est un mélange en fait entre des sons organiques comme ça, des sons enregistrés, des prélèvements dans les grands fonds, et des sons qui sont générés de façon artificielle à l'aide de synthétiseurs modulaires, etc. Donc il y a là aussi un travail d'entremêlement comme ça d'hybridation entre quelque chose qui serait du vivant et quelque chose qui serait un vivant beaucoup plus fantasmé.
Alors, il y a des sculptures, vous l'avez dit, des projections vidéo sur voile de tulle. Alors, d'abord, si on essaye de décrire ces sculptures, ces créatures, on peut penser un peu à des poulpes, à des méduses, à des chenilles aquatiques, mais ça n'est rien de tout ça. C'est assez gros quand même. Hein. On n'est pas sur des petits formats. Est-ce que, vous nous avez parlé un peu des matériaux, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment, peut-être un peu plus concrètement, comment vous avez travaillé à la création de ces
Oui, oui, bien sûr. Alors oui, oui, on les appelle aussi les créatures entre nous.
Voilà.
Elles sont effectivement inspirées. Elles sont toutes à la fois des créatures qui existent, mais surtout des créatures qui n'existent pas. L'idée, c'était pas de faire un pastiche de ces créatures qu'on découvre à chaque fois de nouvelles espèces quand on plonge dans les abysses. Et c'est justement ça qui m'intéressait aussi, c'est que en fait, les grands fonds, les abysses sont un peu la dernière terra incognita de notre monde, notre planète, et il reste encore presque tout à découvrir. On connaît mieux la Lune et la surface de Mars que c'est ce qu'il y a sous nos pieds. Donc effectivement, ça c'était un peu l'inspiration initiale du projet, et les créatures que j'ai voulu réaliser il était important pour moi qu'elles ne représentent rien d'autre que ce qu'il peut y avoir dans ma tête et cette espèce de fantasme d'un monde en mutation, voilà. Donc le matériau principal, je le disais, c'est du verre soufflé, puisqu'on est quand même sur des créatures qui sont translucides. On s'est beaucoup intéressé à la question de la bioluminescence, donc il y a aussi tout un travail d'éclairage et de lumière à l'intérieur et aussi à l'extérieur de ces créatures. Voilà, donc on est encore une fois, c'est du verre soufflé qui est mélangé avec du câble. Il y a aussi tout un travail de projection vidéo qui viennent un peu les animer, les rendre vivantes comme ça.
Alors, je vous propose d'écouter quelqu'un qui est aussi exposé à Nice, on l'a cité tout à l'heure dans le cadre de la Biennale, c'est le photographe plongeur Laurent Balesta, qui décrivait à Caroline Brouet sur France Culture en 2021 les créatures qu'il a pu voir lorsqu'il a réalisé son expédition dans les abysses de la Méditerranée.
La chose difficile, c'est d'atteindre leur univers. Une fois qu'on y est, elles sont là. En fait, il y a beaucoup d'espèces photographiées, de créatures photographiées dans ce livre pour la première fois. Quand on regarde dans des guides de faune et flore, où d'ailleurs il n'y a pas les photos, parce qu'on connaît ces animaux qu'en dessin ou capturés par des engins de pêche, il y a marqué souvent « espèces rares »,« espèces très rares ». Elles ne sont pas rares, elles vivent juste ailleurs. Pour la plupart, en tout cas, on les connaissait déjà, elles avaient un nom et un prénom en latin, il y avait un échantillon quelque part dans un muséum. Mais on les avait jamais vues vivantes, on les avait jamais, et encore moins photographiées. Qu'est-ce qu'on saurait d'une girafe ou d'un éléphant si on ne l'avait jamais vu que mort? Imaginez toutes les théories qu'on inventerait sur la trompe de l'éléphant ou sur le cou de la girafe si on les avait toujours trouvés morts. Ben, moi j'ai un peu cette sensation quand on est à grande profondeur. Alors c'est peut-être pas des animaux aussi énormes, aussi emblématiques qu'un éléphant ou qu'une girafe, mais quand on voit l'uranoscope, il est quand même fascinant. Quand on voit les nuages... Le gorgonocéphale ou les nuages de comète
Narval. Le gorgonocéphale, il est très étonnant parce que j'aimerais bien que vous nous en parliez. C'est un cousin de l'étoile de mer. Alors, c'est presque indescriptible, mais je suis sûr que vous allez bien le faire.
C'est une étoile de mer, mais il faut imaginer que, donc, comme toutes les étoiles de mer, elle a d'abord 5 bras. Sauf que ces 5 bras se découpent tout de suite en 2, puis en 2, puis en 2. Et au final, c'est des centaines de bras qui se terminent en colimaçon. C'est assez envoûtant. Il est fascinant, même sidérant. Peut-être que même cette sidération, ça explique l'étymologie. La tête de gorgone, on connaît la mythologie, quand on croisait le regard de cette créature, on était figé et transformé en pierre. Il n'est pas impossible que les premiers naturalistes qui observaient cette créature-là sous l'eau, ils ne sont pas transformés en pierre, mais ils ont dû rester figés quand même devant tant d'étrangeté.
Hugo Schiavi, finalement, vous avez imaginé les créatures que l'on pourrait croiser, voilà, dans ces endroits où nous ne sommes jamais allés.
Oui, mais avec quand même un élément en plus, c'est que il était aussi question de questionner justement l'humanité là-dedans.
Voilà.
Et qu'est-ce qu'on a produit nous avec toute notre industrie et tous ces dérèglements du climat qu'on connaît sur la vulnérabilité d'un monde comme ça. Et ces créatures là, elles ont intégré, les miennes en tout cas, elles ont intégré ce monde-là. Donc on est vers quelque chose de plus, un peu plus alien aussi.
Oui, voilà, mais c'est pour ça qu'en même temps, il y a un écho là avec ce que dit Laurent Balesta sur le côté un peu mythologique, qu'on trouve un peu dans votre travail aussi, mais sauf que vous, là où il y a une hybridation, c'est qu'on a à la fois dans quelque chose qui peut être mythologique et en même temps technologique, vous l'avez dit aussi, vous en avez parlé, et ça renvoie aussi vers ce que vous disiez de ces grands fonds marins qu'on connaît mal, et en même temps qu'on veut déjà exploiter, notamment justement pour nos téléphones, etc.
Ah oui, absolument. Bah d'ailleurs, c'est un peu tout l'enjeu de ce projet.
Voilà.
C'est effectivement de. Alors évidemment, la crise climatique, c'est la toile de fond incontournable du projet. Mais moi, mon ambition, ma première ambition, moi, je suis pas un artiste militant. Moi, c'est de raconter des histoires, d'imaginer d'autres façons d'exister, de raconter, de questionner le rôle de ces technologies émergentes dans nos vies et comment est-ce qu'elles sont créées. Et effectivement, on parle beaucoup ces derniers temps, vous en avez peut-être parlé juste avant, du deep sea mining et de ces fameuses nodules polymétalliques qui sont au fond des océans et qui contiennent des métaux rares et qui sont complètement, enfin qui sont très très convoitées par certains industriels parce qu'elles contiennent notamment du cuivre pour fabriquer nos batteries, toutes ces technologies. Et donc il y a ici un peu dans ce projet une sorte de dichotomie, enfin en tout cas une espèce de boucle qui se boucle sur elle-même, puisque moi-même j'utilise aussi de la technologie pour fabriquer ces créatures mouvantes. Je parle surtout des vidéos, du travail sonore. Voilà. Donc ce sont des créatures mutantes qui ont intégré cette dimension-là.
Avec aussi cette idée de la connexion des câbles, du flux qu'on retrouve aussi dans ce projet.
Absolument.
Alors là, on est effectivement dans quelque chose qui relève presque un peu de la science-fiction. Hélène Guenin, si on repart au début du 20e, on voulait quand même l'évoquer avant de terminer, parce que c'est aussi un point important de cette biennale. Il y a au musée Matisse à Nice donc une exposition intitulée Matisse Méditerranée. Donc là, on repart bien en arrière avec un autre rapport à la mer et l'océan. Mais quelques mots peut-être quand même sur cette exposition importante.
Bien sûr, on remonte sur le rivage et on montre comment, Aymeric Jeudy, en tout cas le commissaire de l'exposition, montre comment depuis, pendant 50 ans, Matisse a fait de la Méditerranée un laboratoire de sa création. Et sur tous les pourtours de la Méditerranée, bien sûr, on pense à Collioure qui a été une première épiphanie au rivage de Nice, mais aussi de l'autre côté, Tunisie, Maroc. Cette influence durable de la Méditerranée qui était presque comme un objet de contemplation et comme un élément quasi décoratif dans sa peinture. C'est seulement avec les papiers découpés, l'Océanie, qui va vraiment plonger dans les profondeurs. À Nice et sur les pourtours de la Méditerranée, il y a vraiment le motif de la fenêtre.
La fenêtre, voilà.
Et cette exposition, elle réunit plus de 150 œuvres. Il y a des prêts absolument extraordinaires. Et c'est fascinant de voir comment cet homme du Nord, qu'on a associé finalement à Nice sur la dernière partie de sa vie, a passé 50 ans à se réinventer sans cesse face à la violence, c'est lui-même qui le disait, de cette lumière du Sud.
Avec des prêts, effectivement, y compris notamment ce tableau, les baigneuses à la tortue, qui sont habituellement à Saint-Louis, aux États-Unis. Voilà.
Qui est une pièce absolument extraordinaire et qui montre aussi une forme de primitivisme, tout en ayant cette brutalité franche des couleurs, qui est une pièce absolument majeure de l'exposition.
Donc beaucoup de nuances, d'océans, à travers l'histoire de l'art, et jusqu'à effectivement tout ce qu'on peut imaginer aussi aujourd'hui, comme vous le faites, Hugo Schiavi. Merci beaucoup. Votre installation, La Zone de Minuit, est à voir, elle, donc jusqu'au 24 août dans la Grande Halle du 109, pôle de culture contemporaine à Nice, dans le cadre de la Biennale des Arts et de l'Océan, dont vous êtes commissaire général avec Jean-Jacques Ayagon et Hélène Guenin. Merci beaucoup. Je rappelle aussi que vous dirigez à présent la Fondation Yves Klein. Merci à tous les deux. Donc, certaines expositions à Nice se poursuivront encore en septembre. On peut aussi signaler un peu plus loin, à Monaco, une exposition intitulée « Demain l'océan ?» Point d'interrogation. Et je précise enfin, comme nous l'avons beaucoup cité, que le livre « La mer autour de nous » de Rachel Carson est publié en France par les éditions Wild Project. Merci à l'équipe des Midi, Léa Weisgruss, Nina Gandara, Laura Dutache-Pérez, Lisa De Jode, à la réalisation Laurence Malonda, à la technique à Paris Élise Leu. Merci également aux équipes d'ici héros qui ont accueilli Hugo Schiavi, en particulier Nicolas Echen.